Chapitre 14. Affaires de commerce. Plus Philippe se sentait rassuré à l'égard de Sylvia, moins il éprouvait le besoin de la revoir dès le soir même, et d'ailleurs son ambition de négociant ne lui permettait guère de se refuser à l'appel de ses patrons. Aussi, dès que les volets du magasin furent en place, les deux commis partirent ensemble pour se rendre chez Jeremy Foster. À peine s'arrêtèrent-ils un moment sur le pont pour humer la brise marine, chargée de molécules salées, et dans laquelle, après les fatigues du jour, ils se retrempaient avec joie. Ils gravirent ensuite, respectueusement, ces hauteurs aristocratiques où les rues cessaient d'être profanées par le voisinage d'établissements mercantiles et où la maison de Jeremy Foster brillait entre 5 ou 6 autres, toutes pareilles d'ailleurs par l'immaculée propreté de ses portes vernies, de ses cuivres passés à l'eau seconde, de ses marches de pierre savonnées et cirées chaque matin. Devant ce seuil imposant, les deux jeunes gens restaient interdits et timides comme une jeune fille qui va mettre le pied dans son premier bal. Ni l'un ni l'autre n'osait frapper. Philippe, enfin, honteux de lui-même, hasarda un coup timide. Et comme on les attendait, les deux battants s'ouvrirent à l'instant même. Aussi resplendissante de propreté que la maison elle-même, une suivante, d'âge canonique, accueillit par un doux sourire de bienvenue ses visages familiers.
« Laissez-moi vous essuyer un peu, William, » dit-elle, joignant l'action à la parole. « Vous vous êtes appuyé, j'en suis sûr, contre un mur nouvellement blanchi. Et vous, Philippe, » continua-t-elle, passant la revue de ce dernier avec une liberté toute maternelle. « Vous ferez bien de frotter un peu vos souliers sur cette natte. Notre maître n'y manque jamais. »
Dans le salon carré régnait le même ordre, strict et précis. Pas un grain de poussière sur un meuble quelconque, et tous étaient rangés en ligne parallèle ou, tout au moins, formaient avec les autres un angle droit rigoureusement exact. Jusqu'à John et Jeremy, qui avaient pris place aux deux côtés de la cheminée avec une symétrie irréprochable, et dont les deux honnêtes sourires se correspondaient parfaitement. Si admirable que soit cette régularité, on ne voit pas qu'elle mette les gens à l'aise, et ce fut seulement après le souper, lorsque Jeremy demanda les pipes, et lorsque 3 des convives sur 4 se furent mis à fumer, que la conversation devint un peu moins difficile. De politique, on ne parla guère. C'était à cette époque un sujet délicat. La nation tout entière était sous le coup des terreurs qu'inspirait la France d'abord, puis tous ceux qui professaient une sympathie quelconque pour les idées révolutionnaires. Un billet tyrannique contre les réunions séditieuses avait passé l'année d'avant, et on ne savait trop quelle portée le gouvernement comptait lui donner. L'impartialité des tribunaux n'existait plus, les magistrats prenant leur part des alarmes qui agitaient la multitude et subordonnant leur équité à l'intérêt de leur parti. On trouvait bien encore, çà et là, quelques téméraires qui prenaient la réforme du Parlement comme un premier pas vers un système loyal de représentation populaire, mais ces pionniers de 1830 étaient généralement mal vus. La grande masse du peuple se glorifiait d'appartenir au parti Tory et d'abominer la France avec laquelle il lui tardait d'en venir aux mains, car elle avait à peine idée de la naissante renommée que se faisait précisément alors un jeune capitaine corse, destiné à être pour l'Angleterre, peu d'années après, le même objet de terreur que Marlborough avait été jadis pour les Français en bas âge. À Monkshaven, ses opinions avaient une prédominance excessive, et le déchaînement des passions y engendrait une méfiance réciproque qui rendait fort difficile tout entretien sur les affaires publiques. On se bornait en général à des questions inoffensives dans le genre de celles-ci. Un Anglais peut-il tenir tête à plus de 4 Français en même temps? Quel châtiment méritent les membres de la Corresponding Society, correspondant avec le directoire français? Faut-il les pendre, ou les écarteler, ou les brûler? L'enfant que la princesse de Galles va mettre au jour, sera-t-il un garçon ou une fille? Dans ce dernier cas, vaudra-t-il mieux l'appeler Charlotte, ou sera-t-il plus conforme aux traditions monarchiques de lui donner le nom d'Élisabeth? Les Foster, s'ils y fussent été portés, auraient pu sans crainte aborder ces sujets, voire d'autres plus compromettants encore. Mais, peu faits à ces hardiesses, ils se bornèrent à commenter le haut prix des subsistances, le pain à 1 shilling 3 pence, suivant la taxe de Londres. Le froment à 120 shillings, sur tous les marchés du Nord. Puis la conversation s'éteignit dans un silence solennel. John regardait Jeremy
comme pour l'inviter à rompre la glace. Jérémie était chez lui. Jérémie avait été marié. Mais Jérémie lui riposta par un coup d'œil identique. John, effectivement, bien qu'il eût gardé le célibat, n'en était pas moins l'aîné des deux frères. Cependant, la grosse horloge de l'église venait de sonner 9 heures. Il se faisait tard. Jérémie prit la parole. « Avec des prix si élevés, le pain si cher, les taxes si lourdes, le moment n'est pas propice pour se lancer dans les affaires. Mais nous nous faisons vieux, John et moi, et nous n'avons pas d'enfants pour nous succéder. Aussi aimerions-nous à restreindre un peu nos occupations mondaines. Nous nous déferions volontiers du magasin pour nous vouer aux affaires de banque qui ne donnent pas grand tracas. Mais il y a d'abord les marchandises et la clientèle dont il faut songer à se défaire. » Silence de mort. Cette ouverture n'avait rien de favorable aux espérances des deux jeunes gens parfaitement dépourvus de capitaux et qui avaient compté succéder à leur patron par la marche naturelle d'une association progressive. Le langage qu'on leur tenait avait été combiné d'avance par les deux frères pour faire bien apprécier à Hepburn et à Coulson l'immense, l'exceptionnelle responsabilité de la situation à laquelle ils allaient être appelés par les Foster. Il fallait que l'importance de leurs paroles fût en rapport avec l'importance de la proposition. Aussi s'étaient-ils distribués les rôles. L'un des frères devait suggérer, l'autre fournir des objections. Les deux jeunes gens se tenaient aussi sur la réserve. Ce qu'on allait leur dire aujourd'hui, depuis longtemps, ils l'attendaient avec impatience. Il n'en fallait pas moins écouter ce long préambule sans avoir l'air d'imaginer à quoi il pouvait conduire. Ainsi se passaient alors les choses. Sont-elles donc aujourd'hui si différentes? Mais revenons. John Foster répondit à son frère.
Les marchandises et la clientèle, cela coûterait gros. Et encore faut-il tenir compte des aménagements fixes. Philippe, mon ami, pourrais-tu me dire la somme exacte que représentent les marchandises actuellement emmagasinées?
On était alors au lendemain de l'inventaire. Philippe savait la chose sur le bout des doigts.
1941 livres, 13 shillings et 2 pence.
Coulson le regarda un peu décontenancé, sans pouvoir réprimer un soupir. Les chiffres ainsi articulés tout au long avaient quelque chose de formidable, mais Philippe, qui lisait mieux sur la physionomie des deux frères, ne se sentait pas tout à fait aussi épouvanté.
« Et les aménagements ?» demanda John Foster.
« Ils ont été évalués à la mort de notre père. 435 livres. 3 shillings et 6 pence. Il y a eu depuis lors des additions, mais comme il faut tenir compte de la moins-value, nous nous en tiendrons à ce chiffre.
Combien cela fait-il avec les marchandises?
2360 et 16 livres, 16 shillings et 8 pence, dit Philippe.
Bon, et la clientèle? Demanda l'impitoyable John. À combien doit-elle être évaluée?
Cela dépend, frère, de la personne qui se présenterait pour acheter le reste. On pourrait se montrer plus coulant s'il s'agissait de gens connus et à qui on souhaiterait quelques biens. Si par exemple Philippe et William se déclaraient prêts à prendre l'affaire, je ne pense pas que ni toi ni moi voulussions les traiter à l'égal des Millers.
Millers était le propriétaire d'un petit magasin de la Ville-Neuve qui, depuis peu de temps, essayait contre les Foster une concurrence impossible.
« Je ne demande pas mieux que Philippe et William viennent après nous, » dit John, « mais il ne s'agit pas de cela. »
Continua-t-il bien convaincu néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. Personne ensuite n'ouvrit la bouche. Ce fut Jérémie qui reprit.
« Il ne s'agit pas de cela, » dis-tu.
Et il regarda les deux jeunes gens. Coulson secoua la tête. Philippe dit avec plus de courage.
« J'ai 53 livres, 7 shillings. » Et 4 pence, placés chez vous, Mr. John. Et c'est tout ce que je me connais au monde.
Voilà qui est dommage, reprit John.
Et le silence régna de nouveau. 9h30 vinrent à sonner. Il était grand temps de commencer à finir.
Peut-être, frère, trouveraient-ils des amis pour leur avancer l'argent. À raison de leurs bons et loyaux services, on ne leur montrerait pas trop d'exigences.
Ce fut encore Philippe qui répondit le premier.
Je ne sais personne qui voulût me faire l'avance d'un penny. Je n'ai que bien peu de parents, et ils n'ont que tout juste ce qu'il leur faut. »
Coulson dit à son tour.
« Mon père et ma mère ont 9 enfants. »
« Laissons cela !»
dit John, fléchissant un peu vite, car il était las de représenter la prudence égoïste.
« Il me semble, frère, que nous avons assez de biens ici-bas pour en disposer selon qui nous convient. »
Jérémy fut un peu scandalisé de voir s'évanouir si vite la fiction convenue entre les deux frères, et il aspira plusieurs bouffées de tabac avant de répondre.
« 2000 livres, et plus, constituent une forte somme pour la hasarder ainsi sous la responsabilité morale et matérielle de deux Blancs-Becs, dont l'aîné n'a pas tout à fait 23 ans. Il me semble que nous devrions y regarder à deux fois. »
« Allons donc, John, » répliqua Jérémy. « Pas plus tard qu'hier, je t'ai entendu dire que tu préférerais Philippe et William aux 50 premiers venus que je pourrais te nommer. Et maintenant tu leur objectes leur jeunesse. »
« À la bonne heure. La moitié du risque te regarde, et à cet égard, tu es libre d'agir à ta guise. Mais quant à moi, je voudrais, pour la moitié qui me concerne, avoir quelques garanties. Car tu as beau dire, vois-tu, le risque est grand. Voyons, mes amis, pouvez-vous nous fournir quelques sûretés? Avez-vous quelques perspectives de fortune? Quelques successions à espérer? Quelques nues propriétés dont un autre aurait l'usufruit?
Non, ni l'un ni l'autre n'avaient rien de semblable. Jérémy reprit alors.
Il faudra donc, John, que je fasse comme toi, et que je me contente, en fait, de sûreté, de celle que m'offre leur caractère. Après tout, enfant, c'est même la meilleure, et sans laquelle je n'aurais pas traité avec vous. Non, certes, m'eussiez-vous payé, comptant 5000 livres sterling pour la clientèle, les marchandises et les aménagements à demeure, nous tenons avant tout à ce que ce magasin de John Foster et fils, qui existe depuis plus de 80 ans, conserve la renommée de probité qui s'est faite à Monkshaven.
Nos quatre personnages échangèrent tour à tour une cordiale poignée de main, comme si cette partie du cérémonial était indispensable à la constitution de la société nouvelle. Ils semblaient aussi joyeux les uns que les autres.
« En somme, reprit Jérémy, vous nous remerciez, sans savoir de quoi, mais nous n'entendons pas que vous achetiez chat en poche, et plus prévoyant que vous, nous avons tout couché sur le papier. »
Il mit à ces mots ses lunettes de corne, et, dépliant un papier qu'il venait de prendre sur la cheminée, commença sa lecture à voix haute, non sans regarder de temps en temps par-dessus ses verres pour épier sur la physionomie des deux jeunes gens l'effet des perspectives qu'il ouvrait devant eux. Habitué à lire la Bible et à ne lire que cela, il débitait les différents items de son inventaire avec la même onction nasillarde que s'il se fût agi d'un psaume de David ou d'une lamentation de Jérémie.
« Produit brut en moyenne, des 3 dernières années, 127 livres, 3 shillings, 7 pence et 1/6 par semaine. Bénéfice par approximation, 34%. Profit net de l'entreprise, quitte de tout frais excepté du loyer, car la maison nous appartient, 1202 livres par an. »
C'était infiniment plus qu'Eburn ou Coulson ne se l'était figuré. Aussi, nonobstant leurs efforts pour rester simplement immobiles et attentifs, leur physionomie prit-elle l'expression d'une surprise voisine de la consternation.
« Tout cela fait beaucoup d'argent, jeune cadet. Dieu vous accorde d'en bien user, » dit Jérémy, posant un instant son papier. « Amen !»
ajouta John en secouant la tête pour donner plus d'accent à cette simple parole.
« Voici maintenant ce que nous proposons. » continua Jérémy, consultant encore une fois son manuscrit. « Nous estimerons les marchandises et l'agencement fixe 2150 livres. Libre à vous de faire une évaluation plus régulière, ou de consulter les livres et les factures, ou, ce qui vaudrait mieux, d'employer l'une et l'autre voie de renseignement, les contrôlant l'une par l'autre. Mais d'ici là, et pour asseoir les bases du marché, supposons la somme établie comme dessus. Elle constitue un capital que nous laissons entre vos mains à 5% l'an, ce qui fait 107 livres, 10 shillings par an. Du moins pour la première année,
car cet article se trouvera réduit plus tard par le remboursement de notre capital, à raison de 20% par an, ce qui, dans le cours de 5 années, le fait rentrer tout entier en nos mains. Nous comptons le loyer, tant du magasin que des cours attenantes, du droit d'entrepôt, etc., sur le pied de 65 livres par an. Ce sera donc 612 livres 10 shillings que vous devez payer aux frères Foster, John et Jeremy, sur les bénéfices de votre première année, ce qui vous laissera, calculant sur la moyenne ordinaire, 589 livres 10 shillings à partager entre vous deux. Ce plan avec tous ses détails avait été mûrement combiné par les deux frères. Ils craignaient que Hepburn et Coulson ne se laissassent éblouir par le chiffre des bénéfices et avaient organisé l'échelle mobile des remboursements de manière à réduire le revenu de leur première année dans des proportions considérables selon eux, mais qui le laissaient encore énorme aux yeux des deux jeunes gens dont le plus riche ne s'était jamais vu à la tête de plus de 50 livres. Tous deux restaient muets à la grande surprise de leur patron. Tout à coup, Philippe se leva, n'estimant pas qu'il pût témoigner convenablement sa gratitude s'il continuait à se prélasser sur sa chaise, et William suivit son exemple à l'instant même. Hepburn débuta par une phrase modelée sur les remerciements imprimés dans tous les journaux d'York quand il rendait compte de toasts portés aux membres des communes et de la réponse formulée par ceux-ci. Mais bientôt l'élan de sa reconnaissance lui fournit des paroles moins compassées, et ce fut d'une voix émue qu'il prit, pour son camarade et pour lui, l'engagement solennel de mériter à l'avenir, mieux encore que par le passé, les bontés qu'on leur témoignait. « Je voudrais, ajouta-t-il, que ma mère eût vécu jusqu'à cette journée.
« c'est bon, Philippe, » dit John Foster,
pour qui ce mouvement de cœur ne fut pas perdu,
mais provisoirement, parlons affaires. Sachez donc, nous allions oublier ceci, frère Jérémy. Sachez que nous ne voulons pas livrer tout ceci à la curiosité des badauds de Monkshaven, jusqu'à ce que tous nos arrangements soient définitivement pris. Les inventaires vérifiés par vous, les actes dressés par la jurisconsulte, choisis pour cela. Il nous faut donc votre parole que tout ceci restera parfaitement secret.
Coulson promit sans se faire prier. Philippe, au contraire, eut un moment d'hésitation. Il pensait à Sylvia vivante presque autant qu'à cette défunte mère dont les dernières paroles l'avaient recommandé au père de ceux qui n'ont plus d'amis. Et maintenant qu'un si bref délai le séparait de la réalisation de tous ses vœux, ce Philippe, si paisible, si maître de lui, éprouvait une impatience presque fiévreuse. Ce sentiment, pourtant, n'eut que la durée de l'éclair, et il s'engagea au secret qui lui était demandé. Après quelques autres arrangements pris d'une manière sommaire, Hepburn et Coulson firent leurs adieux à leur patron, et ils étaient déjà dans le couloir où la vieille Marthe les scandalisait en les aidant à passer leur surtout, comme s'il se fût agi de son propre maître, lorsqu'on les rappela inopinément dans le salon. John Foster fourrageait dans ses papiers par un geste qui trahissait une certaine agitation nerveuse. Ce fut Jérémy qui prit la parole.
« Nous n'avons pas jugé nécessaire, dit-il, de vous recommander Esther Rose. Si elle eût été un jeune homme, nous lui aurions assuré le tiers des avantages que nous vous faisons. En tant que femme, nous ne voulons pas la jeter dans les embarras d'une société commerciale. Il nous paraît mieux de lui assurer un salaire fixe jusqu'à l'époque de son mariage. »
En parlant ainsi, le vieux Quaker examinait avec une certaine curiosité la physionomie de ses jeunes interlocuteurs. William Coulson semblait mal à son aise et prêt à pleurer, mais il n'articula pas un mot, laissant, comme d'ordinaire à Philippe, le soin d'exprimer leurs sentiments communs.
Quand bien même nous n'aurions pas pris soin d'Esther pour son compte personnel, dit ce dernier, elle nous eût été recommandée, messieurs, par cela seul qu'elle a été à votre service. Vous fixerez vous-même le chiffre de sa rétribution, et je crois pouvoir dire que cette rétribution s'accroîtra dans la même proportion que nos revenus. N'est-il pas vrai, Coulson ?
Ah, sentiment formel, bien que mal articulé.
Car nous la regardons tous les deux comme une sœur, et Alice en quelque sorte comme notre mère. J'ai eu occasion de le lui dire aujourd'hui même.